Les qualités d'un athlète dans ma discipline, je pense que c'est lié aux qualités d'un athlète dans n'importe quelle discipline. Je pense que le premier point, c'est vraiment la motivation et l'implication. Pour moi, c'est deux choses qui peuvent être un petit peu différentes. Donc la motivation, c'est vraiment avoir envie d'aller s'entraîner, beaucoup aussi dans un sport physique. Et alors l'implication dans le sens où il faut comprendre l'implication de son objectif. C'est-à-dire que je peux avoir envie d'être champion du monde. Maintenant, il faut accepter ce que ça demande de vouloir être champion du monde.
NB. Tu es sur Storylifique. Ta mission ce jour, te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Tous les 15 jours, retrouve des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si l'on fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Toutes les explications sont sur storylifique.com. Maxime est du quartier d'Anseremme à Dinan, Belgique, comme moi. Quand on est d'ici, impossible de faire autrement que de se retrouver un jour dans un kayak sur la Lesse. Il est aussi impossible de faire autrement que de goûter à la Leffe, puisque c'est un autre quartier de la ville, mais ça, c'est une toute autre histoire. Pour ce qui est du kayak, de mon côté, c'était plutôt en mode festif avec les copains, mais avec Maxime, on passe à un niveau hyper pro, puisqu'il est quadruple champion du monde de descente de rivière, entre autres. Alors, cette interview a été enregistrée en deux temps parce qu'après avoir enregistré avec Maxime, j'ai croisé son père, qui est aussi son coach, et en éditant l'interview, il était clair que Maxime et son père, c'est the binôme gagnant, et qu'interviewer l'un avec l'autre, c'était encore plus intéressant. Comme ils étaient partants, c'est ce qu'on a fait. Et comme j'avais envie depuis très longtemps de parler avec un coach sportif, et de parler non seulement des exploits, mais aussi de la vie d'un athlète de très haut niveau, eh ben c'était vraiment top. Bonjour Maxime Richard.
Bonjour.
Ben, merci de nous recevoir ce matin. Tu peux nous expliquer où on est ?
Alors on est au RCNML, donc on est dans mon club de canoë-kayak. C'est un club qui est devenu centenaire en 2009. Donc voilà, un club de canoë-kayak ici à Anseremme, près de Dinan, qui est majoritairement dédié à la descente de rivière et à la course en ligne olympique sur plan d'eau plat.
Est-ce que tu peux te présenter toi en quelques mots ?
Je m'appelle Maxime Richard, donc j'ai 33 ans. Je fais du canoë-kayak en compétition. J'ai participé aux Jeux Olympiques en 2012 à Londres et je suis 4 fois champion du monde en descente de rivière.
Voilà, et il n'y a pas que ça, hein. Ça c'est les plus marquants, mais dans les titres sportifs, il y a donc 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 champion de Belgique dans ces différentes catégories, de kayak de descente de rivière. Champion d'Europe de kayak en descente de rivière sprint aussi, et donc bon, quadruple champion du monde, ça tu l'as dit, pour la petite histoire, c'est vrai, c'est intéressant.
Oh wow man!
Donc je mettrai donc un lien vers une vidéo de tes descentes, je dis, c'est vraiment impressionnant la manière dont t'es explosif, quoi. C'est j'ai toujours, quand je fais mes préparations, je regarde pas mal de vidéos de contenu en accéléré pour pouvoir préparer plus vite, et puis j'ai cru en regardant une de tes vidéos que j'étais toujours en accéléré. Je me dis bon, là ça va vraiment vite, donc je vais quand même ralentir, mettre en vitesse normale pour me rendre compte de ce que ça fait, et en fait j'étais en vitesse normale, donc ça ça m'a vraiment impressionné. Quelle cadence, quoi, tu as quelle cadence là sur ce genre de...
Alors je vais vraiment chercher cadence max, peu importe dans quel bateau. On peut tourner à environ 160-165 coups de pagaie à la minute. Voilà. Donc là, ça fait presque 3 à la seconde, ce qui est assez vite.
C'est hyper impressionnant. Et du coup, mes petites filles ont été impressionnées aussi. Et alors d'habitude, elles ont deux questions, une chacune. Et puis là, elles voulaient la même question, donc je te soumets leur petite question.
Comment tu fais pour pagayer aussi vite?
Donc comment est-ce que je fais pour pagayer aussi vite?
Je me pose la question aussi, hein.
J'ai pas réussi à pagayer aussi vite la première année où j'ai fait du canoë-kayak, ça c'est sûr. Donc en gros, il faut pouvoir marcher avant de vouloir courir. Donc au début, dans la progression du canoë-kayak, même déjà au niveau compétition, on apprend à bien marcher. Donc on apprend à vraiment fixer une technique spécifique qui permettra progressivement d'aller chercher des cadences un petit peu plus hautes. Mais quand on veut aller chercher des cadences un petit peu plus hautes, il faut d'office qu'elles restent rentables aussi. Ça sert à rien de pagayer à 100 coups de pagaie à la minute si on va pas plus vite que quand on pagaye à 80. Donc déjà juste simplement ça prend pas mal de temps, ça prend même déjà des années. Et progressivement, on peut aller chercher un petit peu des cadences plus hautes. Moi, c'est à partir de mes années seniors, même pas mes premières années seniors, où j'arrivais à mettre cette cadence-là. Parce que, ça prend du temps, il faut réussir à la mettre en place, à la fixer, à la rentabiliser, et aussi à la travailler en dehors de l'eau. On la travaille sur l'eau avec du spécifique, mais il faut aussi faire des cycles de temps en temps de force ou d'explosivité spécifique à la musculation pour vraiment pouvoir aller chercher des cadences aussi hautes.
Ouais, c'est vrai, je t'avais déjà vu en entraînement, il y a des mouvements, tu dis, non seulement mais c'est lourd, mais ça va vite, quoi.
Ouais, on fait vraiment, parfois du spécifique, ou parfois même aussi de l'excentrique, de l'explosivité, tout du travail qui permettra de donner une dynamique un peu plus explosive à la musculature.
D'accord. Moi, je trouve que c'est ce qui est beau aussi, c'est le travail avec l'eau, quoi, parce que ça doit devenir ton allié pour le mouvement plutôt que de te battre contre, j'ai l'impression. Si tu te bats complètement, tu perds beaucoup de force, tandis que là, tu choisis la précision du mouvement pour que l'entrée de la pagaie, la sortie de la pagaie ne soit pas trop dans la résistance, mais quand t'es dedans, de pousser au bon moment. Enfin, je veux dire, c'est d'une précision, ces mouvements, c'est fou, hein.
Ouais, on doit être très précis. Donc, en gros, on peut essayer de se battre contre l'eau, mais on va toujours perdre, quoi qu'il arrive, parce que l'eau a énormément de force. Et donc, en plus, si on est sur une rivière avec un petit peu des vagues, etc., il y a vraiment énormément de poids là-dedans. Donc, quoi qu'il arrive, on ne sait pas se battre par rapport à ça. Et donc, il faut travailler avec l'élément. On fait un sport de glisse. Le but, c'est de glisser le plus vite possible. Et donc, on utilise un petit peu les vagues, les différents courants, pour vraiment bien placer le bateau et avoir la glisse optimale. C'est pas quelque chose de facile. Il faut vraiment bien pouvoir lire la rivière, comme on le dit chez nous, et vouloir placer le bateau à tel endroit, à tel moment, c'est pas spécialement facile non plus. Donc voilà, ça prend un bon bagage technique qu'on continue à travailler sur rivière spécifique, en reconnaissance, etc., pour préparer les objectifs, les compétitions. Et même quand on a préparé tout ça, on n'est pas à l'abri de faire une petite faute. Et à ce moment-là, c'est plutôt de l'adaptation, pouvoir se remettre d'une possible faute. Et si ça se passe bien, par contre, on a des super bonnes sensations de glisse. On se bat pas avec la rivière. Et généralement, c'est à ce moment-là que les chronos sont bons.
Ouais, quand t'as l'impression de t'insérer dans le, voilà, de bien profiter de tous les moments
de
la rivière.
De maximiser les courants. Parce que, voilà, si je pagaie super vite, juste à côté du courant, quelqu'un qui va pagayer moyennement vite en plein dans le courant, il ira plus vite que moi. Donc, c'est de pouvoir pagayer super vite au bon endroit. Et à ce moment-là, de rentabiliser et de faire en sorte que les secondes, elles soient dans le bon sens.
Et toi, la question motivation, application, c'est pas la première génération qui est là-dedans, hein?
Non, mon grand-père a fait du kayak. Il a été président du club ici, on le voit là sur la photo. J'ai pas eu la chance de le connaître parce qu'il est décédé quand j'avais un an. Mais mon grand-père donc a fait du canoë kayak. Il a été président du club ici au RCNML. Papa a été en équipe nationale, en descente de rivière et en course en ligne olympique. Et ben, c'est papa, voilà, qui m'a poser les fesses, on va dire ça comme ça, dans un kayak et qui m'a accompagné, qui est devenu mon entraîneur. J'avais 7 ans pour mon tout premier coup de pagaie, donc c'est vraiment très très jeune. Et c'est toujours mon entraîneur à l'heure actuelle. Donc c'est voilà, 100% de mon implication dans le sport et des résultats que j'ai pu faire dans le sport, je les dois clairement à papa.
J'ai entendu, j'avais interviewé une qui avait été championne olympique junior de ski alpinisme, une Cabellès, et elle disait, maman, attendez avec papa que j'ai le pied qui rentre dans les premières chaussures pour faire du ski alpinisme, tu vois.
Alors, c'est plutôt moi qui étais demandeur et moi qui attendais à avoir la taille pour commencer. On m'a pas du tout poussé à faire du canoë kayak, mais c'était très jeune, ouais, c'était déjà très jeune.
Mon père était déjà pagayiste lui-même, à une époque qui n'avait rien à voir, mais enfin ici sur toute la région, le kayak à ce moment-là, c'était quand même fort important. Il n'y avait pas autant d'international qu'il y a maintenant. Ça fait 50 ans que je suis dans le kayak. C'est Maxime qui sert de locomotive pour la génération suivante. Je n'ai pas le palmarès de Maxime, loin de là. Je n'ai jamais été champion d'Europe, je n'ai jamais été champion du monde. J'étais 15 ans dans l'équipe nationale et je faisais et la rivière et aussi la vitesse olympique. Avec une sélection pour les Jeux, mais où je me suis blessé au mois d'avril. Et puis est arrivé Maxime, et donc c'est vrai que notre relation, elle a évolué énormément, parce que ça fait quand même 25 ans maintenant. Il a démarré très petit, hein, à 7 ans, je l'ai mis sur l'eau. Il était demandeur, et donc ça a été très vite. Et on a eu une relation de père et son fils, qui sera restée jusqu'au bout, mais évidemment, en évoluant, il y a eu une complicité qui s'est installée. On partage quand même chacun 365 jours par an. On se retrouve seul dans les hôtels. Je disais un peu, à la fin, on était un peu comme un vieux couple. Et il y a eu donc une grosse complicité qui s'est installée. Je dis toujours, je souhaite aux entraîneurs d'avoir des athlètes de la qualité de Maxime, parce que ce sont des athlètes assez exceptionnels. Lui ici, il fait preuve de beaucoup d'humilité, donc il est facile. Il est fort humble et il est très respectueux. Je crois surtout que quand un athlète a confiance en son coach, il peut aller au feu. Sans cette confiance, on passe à côté, ça c'est sûr.
Est-ce qu'il y a une anecdote que vous aimeriez raconter qui montre bien qui est Maxime ?
Non, je ne sais pas. Peut-être pas quelque chose qui lui ressemble vraiment. mais plutôt une pour expliquer que à 7-8 ans, il savait déjà où il allait. On se retrouve sur une grosse rivière en France, mais c'était vraiment gros. Et donc, il faut imaginer un athlète de 80 kilos ou un gamin de 7-8-9 ans qui doit passer au même endroit, sur les mêmes vagues ou quoi. On est parfois un petit peu plus ballotté que quand on est lourd dans le bateau. Et il avait un bateau un petit peu plus adapté, un peu plus petit. Et tout ça pour dire qu'on est arrivé à un moment là, devant une pierre, mais vraiment une grosse pierre, quoi, 6 mètres cubes de cailloux, et qu'il fallait aller à gauche. Et il est tellement léger qu'il s'est fait embarquer à droite. Je dis bon sang, bonsoir, où va-t-il arriver? Mais non, il avait trouvé son chemin. C'est par là qu'il savait déjà qu'il pouvait aller. Il y est allé tout seul et il est sorti de l'autre côté avant moi.
Donc la lecture de rivière, ça...
Ça a déjà été, oui. Il voyait déjà clair, il voyait... Oui. La première compétition, il avait eu une dérogation pour courir parce qu'il n'avait pas encore l'âge. Il était un an et il s'est présenté à 1000 mètres. Mais c'est départ en ligne. Donc tout le monde était côte à côte. Et jusqu'à 50 mètres de l'arrivée, il est troisième. Il a été chercher les deux autres. Et quand il a franchi la ligne, il m'a montré ses avant-bras. Il avait tellement d'acide lactique qu'ils étaient déjà tout durs. Et comme quoi, déjà à cet âge-là, il savait se mettre dans le rouge pour gagner. Il savait que ça faisait partie du jeu et il était fier de me montrer, regarde mes avant-bras. Donc, il avait déjà ça dans sa tête.
Il les a été, il les a montés, les deux autres.
Il a gagné, mais un gosse si petit, faire mal comme ça pour aller les chercher, c'était sympa. Quand tu dis, non, d'une pipe, il y a quand même quelque chose.
Il y a un tir dans le moteur.
Oui.
Et alors, votre relation père-fils, qu'est-ce que ça ajoute au coaching? D'abord, première question, c'est quoi le métier de coach d'un sportif d'aussi haut niveau? Et après, qu'est-ce que votre relation père-fils apporte à cela?
Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Lui, je sais qu'il dit toujours qu'il fait une différence entre les entraînements où il est avec le coach et je vais dire à la maison où il est avec le père. Et moi, j'ai toujours eu du mal, je ne sais pas les dissocier. Mais d'un autre côté, c'est grâce à lui parce que justement, il est tellement bonne composition, il sait où il va, il est tellement respectueux que j'ai pas besoin de me fâcher à l'entraînement. En plus de ça, ça marche chaque fois. On n'a pas eu de grosses déceptions en 25 ans. Je n'ai jamais eu l'impression d'avoir une relation différente. Mais je suis conscient par contre que j'ai une relation privilégiée en tant qu'entraîneur. Parce qu'il y a beaucoup de bons entraîneurs, d'autres meilleurs que moi, qui n'ont pas la chance dans leur carrière d'avoir un athlète comme ça. Ça, c'est une chose. Et en dehors de ça, c'est la situation du papa qui, pendant beaucoup d'années, a vécu une situation privilégiée avec son fils et qui était content quand la maman venait aussi. Elle sait faire passer des choses qu'un coach ou un père ne fera pas passer et ça fait un tout. Peut-être qu'il n'aurait pas fallu qu'on fasse 7-8 parce que...
On peut faire la fête non plus.
Ça aurait sans doute un peu foiré un moment, mais la relation, non. Je serai toujours son père avant tout. Et cette chance d'avoir coaché un athlète comme ça, qui en plus de ça, quand c'est votre fils...
Il y a de la fierté en plus derrière.
Bah, évidemment qu'il y a de la fierté.
Sinon, on n'en comprendrait rien. Ça reste une histoire de famille aussi avec ton frère.
Ouais, pas en kayak, mais voilà. Dès qu'on arrive à partager... Un entraînement ou un petit moment en famille, je suis toujours preneur.
Ouais.
Parce qu'il y a des périodes où on voyage beaucoup, on voit pas beaucoup la famille, etc. Donc dès qu'on arrive à passer un petit peu de temps privilégié, ça fait du bien, ça permet de se changer un petit peu les idées, de relativiser un petit peu les choses et de rester aussi en contact avec ce qui est le plus important. Voilà.
Ah, c'est super. Et donc toi, tes entraînements au quotidien, c'est beaucoup de musculation spécifique, c'est du crossfit apparemment, c'est ce que tu vas faire ce matin après l'interview. Et puis sur l'eau, évidemment.
Ouais, on fait pas juste du kayak, hein. On fait de la préparation physique générale, surtout en hiver, donc de la course à pied, du vélo. Alors on a toujours fait aussi beaucoup de musculation. Les grosses semaines en hiver, c'est parfois jusqu'à 20 heures seulement en musculation, donc deux spécifiques en musculation et parfois même deux séances par jour. Et ici, depuis 3-4 ans, on intègre aussi dans la période hivernale un petit peu de crossfit, donc qui est un travail différent, encore plus en résistance, mais qui peut apporter un petit plus, puis qui casse aussi un petit peu la routine. Et alors, ce qui est cool aussi avec le crossfit, c'est que mon grand frère Jérôme, a une salle de crossfit, il est instructeur, et donc ça nous permet aussi de partager un entraînement ensemble, plutôt que d'être toujours face à des barres, à la muscu. Voilà, ça casse un petit peu la dynamique aussi, et ça apporte un petit plus dans la préparation.
Et quel est le travail que vous faites avec lui au quotidien, vraiment les grandes lignes?
Je suis son préparateur physique. Donc
oui.
Déjà, même en dehors de ça, tout l'hiver, en dehors du programme, il y a toutes les séances de muscu. Il y a le jogging, il y a le vélo, il y a tout ce qui vient sur le côté.
C'est vous qui programmez qu'est-ce qu'on va faire pour travailler, quoi, l'explosivité, l'endurance, cela.
Voilà.
Faire attention de ne pas blesser non plus l'athlète et,
voilà,
et tout ça,
donc
c'est
je
ça
prépare aussi les... il y a ça, je prépare les dates de stage, les lieux de stage en fonction de l'objectif. Il est clair que ici, avec les jeunes, il va partir la semaine prochaine, la semaine suivante, sur la Vézère, parce que dans deux mois, les championnats du monde ont lieu là-bas.
Mmh.
Donc, on prépare les stages en fonction des dates de compétition, parce qu'il y a des moments où on doit faire des prises de volume, puis il y a des moments où on fait un peu plus de technique, il y a des moments où on travaille autre chose, et en fonction de la rivière sur laquelle les championnats vont avoir lieu, on choisit les endroits d'entraînement.
Prise de volume, c'est travailler la musculature ?
Non, prise de volume, non, c'est d'une manière générale, refaire beaucoup de kilomètres.
Ah, du volume, refaire, ok, dans ce sens-là, ouais.
Voilà, ouais. Le volume général. Et donc, en plus d'être son préparateur physique pour la muscu et pour les bateaux, il y a pour le choix des bateaux, le choix des pagaies. Et puis, il y a la surplace. Parfois, il dit, tiens, là, j'ai un peu difficile. Est-ce qu'il vaut mieux passer à gauche du caillou ou à droite ? Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que parfois, du bord, on voit un peu mieux les choses que... Et d'un côté, quand on est sur la rivière, on sait si on peut y aller ou pas. Ça a évolué, évidemment. Maintenant, il y a longtemps que ça, il n'a plus besoin de moi. Et puis alors, il y a le travail de coaching en tant que tel. Là, c'est de savoir d'entendre au moment et tout le rituel qu'on a mis en place. Donc, à part au niveau diététique, casquette.
Ouais. Et au niveau du mental, le travail, enfin, je veux dire, la détermination de Maxime suffit ou c'est justement parfois le petit mot qu'il faut bien placer, mais il n'y a pas de...
Le petit mot, ça, oui, de toute façon... Ou c'est parfois celui qu'il ne faut pas dire, hein, plutôt que celui qu'il faut dire, parce qu'il y a ça aussi. Mais au niveau mental, je crois que s'il devait redémarrer maintenant, il ferait sans doute appel, ou je lui demanderais de faire appel à un coach mental. C'est pas que c'est dans l'air du temps, mais c'est certainement un petit plus. Hein. Parce que ça, je ne l'ai pas, on n'en a pas eu besoin. C'est une chance. Chacun son métier. Donc, consulter un préparateur mental, c'est certainement un plus pour tout le monde. Je vais garder une phrase, ça serait celle-là.
Non, c'est vrai, c'est un travail qui me fascine complètement. Et ben, c'est vrai que lui, visiblement, il avait un tel mental de job lui-même. Est-ce qu'il doute parfois ?
Oui, ça lui est arrivé. Ici, pour une année, bon, donc en 2016, on se prépare pour les Jeux. Ça passe à 700e. Il me dit, voilà, est-ce que je peux encore être champion olympique ? Je ne crois pas. Je lui dis, voilà, je vais être franc, je crois que vraiment ta discipline, ton truc, c'est la descente de rivière et en sprint ou en classique. Parce que je dis, tu peux être bon dans les deux. Donc, vous savez que le sprint, c'est plus court, un effort court et sur la partie spectaculaire de la rivière, alors que la classique, c'est sur la partie plus longue. Et je dis, ça, oui, tu peux encore être champion du monde. Et en l'espace de quelques heures, il a dit, je retourne à la rivière. Et c'est là qu'il est devenu double champion du monde, donc et de sprint et de classique. Donc, il a su lui-même rebondir. Et la petite déception des 700e, oh, peut-être que si on lui en reparlait maintenant, mais non, il a chaque fois su rebondir.
Faire du sport outdoor, ça fait partie de ta motivation, que ce soit un sport d'extérieur ?
Ouais, ça change tout. En hiver, on s'en veut un peu. Quand il fait vraiment froid et qu'on voit des gens qui font un sport indoor, on se dit, bah, à cette période-ci, c'est quand même pas mal. Maintenant, en été, quand il fait chaud, je pense que c'est plutôt eux qui nous envient de pouvoir être sur l'eau. J'ai toujours adoré la nature, j'ai toujours eu besoin d'être dehors. J'ai du mal à rester vraiment, même une après-midi, chez moi, sans prendre l'air. Je me sens pas bien si je prends pas un peu l'air. Et on a eu une éducation où on était tout le temps dehors. Dès qu'on rentrait de l'école, on tapait les mallettes, on allait jouer dans les bois, faire des bêtises, etc. Donc voilà, j'ai toujours été dehors, j'ai toujours eu besoin d'être dehors. Et c'était tout à fait naturel du coup de faire un sport d'extérieur plutôt que d'un sport indoor.
Et puis c'est chouette aussi de travailler avec un élément qu'il faut sentir à chaque fois, d'après la température, d'après le débit, l'eau n'est jamais deux fois la même. Ça doit être...
Ouais, c'est vraiment changeant. Donc ça, c'est un des points positifs. Suivant la météo, on a des sensations même au niveau de sa performance qui peuvent être un petit peu différentes. Quand il fait vraiment froid, on a besoin d'un échauffement un petit peu plus long. Quand il fait vraiment chaud, on sent que c'est un petit peu dur. Donc on a beaucoup de sensations aussi qui sont liées aux conditions extérieures. Et les niveaux d'eau, ça change clairement tout aussi. Quand on fait la descente de l'Est en hiver, qui a vraiment un beau débit, c'est pas la même laisse que quand il y a les locations en été. Donc voilà, ça clairement, ça change aussi un petit peu la dynamique, ça change un petit peu la routine et ça fait vraiment du bien.
La fameuse laisse. C'est quoi les qualités d'un athlète dans ta discipline ?
Alors, les qualités d'un athlète dans ma discipline, je pense que c'est lié aux qualités d'un athlète dans n'importe quelle discipline. Je pense que le premier point, c'est vraiment la motivation et l'implication. Pour moi, c'est deux choses qui peuvent être un petit peu différentes. Donc la motivation, c'est vraiment avoir envie d'aller s'entraîner vraiment beaucoup aussi dans un sport physique. Et alors l'implication dans le sens où il faut comprendre l'implication de son objectif. C'est-à-dire que je peux être champion du monde ou je peux avoir envie d'être champion du monde. Maintenant, il faut accepter ce que ça demande de vouloir être champion du monde. Et donc l'implication, elle peut être clairement différente en ayant l'objectif de devenir, par exemple, médaillé au championnat de Belgique et avoir une bonne motivation par rapport à ça. Ou avoir la motivation et l'envie de devenir médaillé en championnat du monde, mais de réussir aussi à comprendre l'implication, la différence, et de mettre aussi cette implication-là. Donc je pense vraiment les deux premières qualités d'un athlète, un petit peu pour n'importe quel sport, c'est d'avoir la motivation et de comprendre l'implication. Et à partir de ce moment-là, dans notre sport à nous, il faut des qualités physiques, des qualités techniques, il faut comprendre un peu le mouvement, réussir à avoir une adaptation parfaite par rapport à ça, et travailler le physique, dans le sens où on a besoin d'un gros bagage technique qu'on travaille chaque année et qu'on travaille tout le temps. Mais il faut aussi clairement s'entraîner parce qu'on fait un sport physique. Donc, il faut avoir les qualités physiques de pouvoir encaisser un certain volume d'entraînement.
Ouais, j'avais entendu dire, c'est la différence entre avoir un rêve et avoir un objectif. Il faut savoir se mettre l'objectif de réaliser ses rêves.
Ouais.
Tu avais dit ça une fois. Je trouve ça super. C'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des rêves, mais alors faire le travail, faire le taf pour y arriver, c'est pas tout le monde. Hein.
Ouais, c'est clairement la différence. Je pense qu'on a tous des rêves. Moi, je rêvais quand j'étais gamin de devenir champion du monde de kayak, mais j'ai fait de mon rêve un objectif. Et à partir de ce moment-là, j'ai mis aussi de l'implication dans mon objectif.
Ouais, disais-tu.
Et j'ai pu réaliser mon rêve.
Ouais, donc voilà. Ça voulait dire parfois dire non à des sorties, dire voilà.
Ouais, clairement. Ben là, on est en plein dans l'implication. C'est-à-dire que on peut faire le volume d'entraînement aussi, mais si derrière on mange pas comme il faut, on dort pas suffisamment, etc., ça payera pas. Donc, on a une implication qui est quotidienne et qui n'est pas simplement basée sur l'entraînement.
Ouais, je crois que c'est tout ce qui est à côté. C'est toi ou c'est ton papa qui disait, c'est là qu'on voit les jeunes qui vont aller loin, c'est à la fin de l'adolescence que ça devient vraiment dur de résister aux envies de vivre les choses de son âge, quoi.
Ouais, je pense qu'il y a moi j'ai toujours estimé qu'il y avait deux périodes relativement compliquées. La première, c'est plutôt à l'adolescence, quand on a les copains qui commencent à aller en sortie, etc. Et là, on se dit, est-ce que je reste à la maison, je vais dormir tôt et par contre, je suis en forme le week-end pour faire une bonne course, ou est-ce que je commence à sortir un petit peu? Ou alors on a des copains qui le comprennent et on arrive à jongler un petit peu avec les deux à cette période-là. Et la deuxième période vraiment plus compliquée, c'est quand on sort de l'école, des humanités, de se dire, je vais à l'université, ou est-ce que je prends un aménagement un petit peu scolaire que pour pouvoir continuer à m'entraîner et concilier un petit peu les deux? Ou est-ce que j'ai pas la possibilité d'aller à l'école, que je suis vraiment obligé de commencer à bosser, et que donc, si je suis maçon et que je bosse du lundi au vendredi, et que j'ai des grosses journées, c'est compliqué de s'entraîner derrière, quoi. Donc ça, c'est peut-être en final la période encore la plus compliquée, mais elles sont toutes les deux relativement importantes.
L'implication sans faille de Maxime, moi, c'est ça qui me fascine le plus. Quel est le regard que vous portez là-dessus? Est-ce que vous voyez ça souvent dans les autres athlètes?
Pour moi, ils sont un peu tous différents. Je vais prendre le cas de Maxime, puisque c'est celui dont je peux parler. Il n'a pas eu une jeunesse comme les autres. Il y a pas mal de sorties qu'il n'a pas faites. Les anniversaires de ses copains, souvent à 10h, 10h30, il rentrait. C'est quand même un peu une vie, c'est un peu de moine, sans être négatif. On se lève, on mange, on va s'entraîner, on revient, on mange, on fait une sieste, on retourne s'entraîner, on reprend une collation, on repart une troisième fois s'entraîner.
Il s'entraîne trois fois par jour.
Ouais, c'était un minimum de deux fois en comptant les séances de musculation et les séances au bord de l'eau, et même parfois quatre fois, parce que le soir, quand on refait encore une séance de gainage ou d'assouplissement, parce qu'on n'a pas eu le temps pendant la journée ou qu'on a eu vraiment un gros truc, quoi. Mais c'est un travail sur toute l'année, hein. Donc, il y a des réunions de famille parfois où on n'était pas là. Et donc, il s'est impliqué, il a fait son choix. Il voulait, depuis tout petit, il voulait être champion du monde.
Mais comme il dit, l'hiver, c'est dur, mais il y va, quoi. Je n'ai pas l'impression qu'il reste au lit une seule fois en se disant « Oh, non, pouf, aujourd'hui, non. C'est trop dur ou... ».
C'est leur choix. À ce niveau-là, quelle que soit la discipline, il ne fonctionne pas tout à fait comme tout le monde. C'était pareil aux études, mais à un moment, il a fallu faire un choix. Si on veut être champion du monde en descente de rivière, il faut choisir ses lieux d'entraînement. Donc, on ne peut pas se permettre d'aller à l'UNIF à Liège ou à l'ULB ou à Louvain. Ça ne marche pas comme ça, parce qu'il faut pouvoir emmener la laisse avec soi. La laisse, quand je dis la laisse, c'est la laisse, la rivière, la laisse. Et en dehors de ça, on ne peut pas se permettre non plus de faire 2h30 de transport par jour quand on s'entraîne 3 fois. Donc voilà, c'était dès le début, il a dit, voilà, je veux être champion du monde. Et puis il a été une fois. Moi, je dis, c'est la première fois, on peut dire que c'est la plus belle parce qu'on a la réponse à la question qu'on s'est posée pendant des années. Est-ce que je peux le devenir?
C'était à quel âge ça qu'il a été pour la première fois champion du monde?
Il y a 22 ans. C'est peut-être le plus jeune. Il avait déjà doublé en junior. Donc, il a été champion d'Europe du monde en première année junior, mais aussi en deuxième année. Il est le seul. Quand je dis le seul, ce n'est pas que le seul belge. Il est le seul de la discipline. Et champion du monde à 22 ans, c'est un peu tôt, quoi. La preuve, c'est qu'il existe maintenant, ça n'existait pas de son temps, une catégorie U23, comme dans les autres disciplines. Donc, il y a moins de 23 ans. Lui, voilà, à 22 ans, s'il était complet et physiquement, au niveau anatomie, au niveau physiologie, mais alors surtout dans la tête d'avoir envie de quelque chose et de se donner les moyens d'y arriver. Mais respect, parce que tous ceux qui l'ont été vous le diront, il y en a qui ont fait exactement les mêmes sacrifices, parce qu'on ne parle pas de sacrifice, parce que sacrifice c'est un peu péjoratif, ça fait un peu triste ou quoi. Non, pour lui c'est pas sacrifier que d'aller sur l'eau, il a plaisir d'y aller. Et je ne veux pas dire qu'il a plaisir de se faire mal, mais il sait que se faire mal ça fait partie du jeu, et donc il est content quand la journée est faite et qu'il a rempli ses objectifs, qu'il a eu des bonnes sensations sur l'eau, que son coup de pagaie tournait comme il voulait ou quoi. Et ils trouvent leur plaisir là-dedans. Mais quelque part, si, c'est beaucoup de sacrifices et confort sollicité. Hein. C'est une vie assez spéciale.
J'ai vu aussi tes encouragements à Nafisa Toutiam pour les JO. Hein, tu avais fait une petite vidéo. Tu lui dis aussi de s'épanouir en tant qu'athlète et surtout de prendre beaucoup de plaisir. Donc le plaisir, c'est important. Comment est-ce qu'on fait pour garder le plaisir au fil des ans comme ça?
Je pense qu'il faut être passionné. Ça, c'est probablement très important aussi, de nouveau pour la motivation, etc. Il faut vraiment aimer son sport, parce que quand on passe 25-30 heures par semaine à le faire, ou en tout cas à s'entraîner pour y performer, il faut quand même avoir plus qu'une passion. C'est parfois même une addiction. Donc voilà, je pense que ouais, c'est clairement important d'être passionné par son sport. Et au final, peu importe si c'est pour un objectif de performance ou simplement pour le faire 2-3 fois par semaine, on a besoin d'aimer ce qu'on fait. Et c'est parfois compliqué quand on devient athlète professionnel ou quand on a un athlète qui s'entraîne énormément. On tombe dans une routine où on a la performance en point de mire. Et il y a certains athlètes parfois qui oublient de profiter un petit peu de ça. De se rappeler que s'ils font ça, c'est parce qu'ils aiment faire ça. Surtout les périodes de volume en hiver où on est vraiment fatigué, etc. Mais je crois que clairement, si on n'a pas la passion, si on n'a pas l'amour de notre sport, qui doit être hyper important, et si on prend pas du plaisir à le pratiquer, à continuer à le pratiquer, même dans un objectif professionnel, ça pourra pas fonctionner. Donc il faut pas l'oublier.
Garder le plaisir, ouais, ça j'aimais bien. Tu as aussi t'as payé le prix fort aussi hein, pour ton sport. Tu t'es fait opérer des deux bras et de l'épaule, je crois déjà.
Des deux bras, pas de l'épaule. J'ai eu des gros soucis d'épaule, mais on a réussi à éviter l'opération, ouais.
Ouais, c'est déjà ça, ouais, ouais.
Voilà, je pense que le haut niveau, c'est assez exigeant et on est toujours à la limite de tomber dans l'excès. On doit parfois tomber aussi un petit peu dans l'excès pour comprendre qu'on est tombé dans l'excès.
Et on ne connaît pas la limite si on ne s'y est pas pris le nez dessus.
J'ai fait énormément de musculation, donc quand je suis passé sur les distances plus courtes, notamment en course en ligne, donc là j'ai les avant-bras qui ont vraiment trinqué. J'ai dû être opéré des loges fin 2016. La récupération a été un petit peu compliquée, mais maintenant c'est passé.
Et ça a été 22 mois, je crois, hein, 6 semaines qui sont devenues 22 mois pour tes bras. Donc ça va vraiment avoir une tête dure pour continuer son sport hein, quand on a une période comme ça aussi longue où on se demande
ouais,
de quoi
ça
sera fait.
Ça a été vraiment très compliqué. Le médecin avait dit, voilà, dans 6 semaines, il pourra y avoir vraiment un retour à l'entraînement. Donc on a fait les deux bras en même temps. Généralement, c'est un et puis l'autre, mais on a fait les deux bras en même temps pour essayer de gagner un petit peu de temps. Et en fait, après 6 semaines, je pouvais vivre plus ou moins normalement, mais je pouvais pas pousser des barres à la muscu, je pouvais pas faire des départs en kayak, etc. Donc, les 6 semaines sont transformées en quelques mois. En final, on a peut-être brûlé quelques étapes en pensant que ça va, c'est bon, on peut redémarrer. Et les quelques mois sont tournés en quasiment 2 ans. Donc, ça a été vraiment très long. Ouais, ouais. Mais comme, voilà, j'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment amoureux de mon sport, j'adore mon sport. Et j'étais encore trop jeune pour m'arrêter là. J'en ai profité pour faire un petit peu d'autres activités aussi, ce qui m'a fait du bien. Et finalement, voilà, j'ai pu revenir après pas mal de temps, mais j'ai pu bien revenir et j'ai pu vraiment retrouver mon niveau le plus haut.
Ouais, ouais, chapeau, quoi, parce que ouais, t'es vraiment revenu, quoi. Hein, c'est pas un petit retour, c'est un grand retour. Est-ce que vous pensiez que c'était possible de revenir au top après un arrêt aussi long? Ça démontre aussi toute la force de sa détermination derrière, quand même, non?
Déjà au départ, parce qu'il s'est fait faire les 2 bras à la fois, alors qu'on ne pouvait déjà pas.
Ouch, that hurts!
Donc, c'était un, mais il a dit non, moi, désolé, c'est les 2 ou rien du tout, parce que je ne peux pas me permettre d'arrêter. Mais de nouveau, c'est dans le cadre du personnage, entre guillemets, qui se donne les moyens, qui dit, OK, ça va être comme ça, mais non, je vais... J'étais plus en confiance sans doute que lui. Lui avait peur de perdre beaucoup, notamment en puissance musculaire, en dehors des jours d'entraînement perdus, où parfois la motivation peut tomber. Moi, je savais qu'il pouvait revenir. Voilà, ici, il a déjà dit « je ne vais plus faire de championnat du monde » ou quoi. Puis il fait les championnats d'Europe l'année dernière. 100% des médailles sont européennes dans sa discipline, donc ça change pas grand-chose, et ça l'a fait. Et ici, ben, il dit, ben, je ferais quand même bien encore cette course-là, c'est pas loin, c'est une Coupe d'Europe, et le championnat de Belgique, donc ça peut être sympa, tu es d'accord qu'on travaille là-dessus. On a travaillé là-dessus, et il est resté, en plus de ça, dans la manière, il a explosé les chronos de nouveau, donc... Ben oui, quand ça se compte en 10e et qu'il met le 2e à plus de 2 secondes.
Ah
oui. Ah oui, il y a ça aussi. Donc, c'est Maxime. On dit toujours nul n'est prophète en son pays. Dans les autres pays, ils disent de lui, c'est le boss. Et quand le boss est là, ben voilà. Parce qu'il a toujours gagné, en plus, ça avec la manière. D'abord, il a chaque fois gagné. Quand il s'est préparé pour, il a chaque fois gagné. Et je vais dire, il mettait. Au moins 2 secondes au 2e, alors qu'entre le 2e et le 8e, il y avait 6 dixièmes, quoi, 2 secondes. Il a toujours explosé. Il a à croire qu'il était né pour faire du kayak.
Le mental, c'est quand même quelque chose là aussi. Parfois, il faut se prendre le nez sur le mur pour savoir sa limite, parce que pas assez, c'est fatal. Trop, ça peut l'être aussi, de confiance en soi.
Si on parle vraiment de la confiance en soi, je pense que c'est quelque chose d'important. Il faut avoir confiance, en tout cas, peut-être pas en soi, mais en ce qu'on fait. Mm-hmm. Donc moi, j'ai confiance en papa en tant qu'entraîneur, aux entraînements qu'on fait, aux autres personnes qui m'entourent. Et du coup, bah, ça me donne confiance. Mmh. Si on veut être champion du monde ou si on veut faire des gros résultats au niveau international, on doit être entouré des personnes qui nous donnent l'impression qu'elles ont les capacités ou qu'elles sont aussi parmi les meilleures personnes du monde pour ce projet spécifique-là. Donc moi, ça a été le cas. Ça a donné pas mal de confiance. Maintenant, quand on est en compétition, la confiance, elle peut être là, mais on sait que tous les autres vont vite. Donc ça, il faut aussi le comprendre. On n'est pas les seuls à s'entraîner dans cet objectif-là. Et parfois, un petit excès de confiance, bah, ça peut causer du tort aussi. Ouais. Moi, j'ai jamais vraiment été dans cette optique-là, mais j'ai quelques athlètes que c'est le cas et toujours bon signe.
Non, hein. Qu'est-ce que tu fais alors, toi, pour te préparer aussi un peu mentalement la veille, le matin même, juste avant de commencer la course, quand on tient le bateau, que tu es prêt à partir, hein. Comment tu fais? Tu fais plutôt le vide ou tu penses à certaines choses qui te mettent en confiance? Tu fais comment?
Alors moi, je commence, c'est relativement progressif. Déjà quelques semaines avant l'objectif principal de la saison, je commence à tout doucement mettre un petit peu dans ma bulle. Je continue, enfin, je suis pas enfermé dans ma chambre dans le noir, hein. Mais je commence tout doucement à me préparer mentalement à cet objectif-là, ce qui me permet de rentabiliser encore peut-être un petit peu plus les dernières séances, les dernières semaines. Quand on part sur la compétition, c'est souvent une étape supplémentaire au niveau de la concentration. Et les premières descentes sont relativement importantes, c'est de réussir à valider des choses. Donc moi, par rapport à ça, ben, j'ai besoin, par exemple, que papa soit là, qu'il soit autour, qu'il dise un petit mot, etc. Voilà, on n'a pas besoin de se parler pendant des heures, mais de se mettre dans une dynamique vraiment positive les jours avant la compétition. On dit souvent qu'il faut provoquer un peu la chance, qu'on compte pas sur la chance, mais qu'il faut provoquer la chance. Donc il faut se rendre compte que ça y est, on s'est bien entraîné, mais on est à notre objectif principal. Donc l'entraînement, quoi qu'il ait fait, c'est validé. Maintenant, on doit profiter, on doit essayer de rentabiliser un petit peu ça. Et alors, la veille, là, j'essaye d'être un petit peu... Généralement, la veille, on n'a pas une grosse journée. Donc, on a une matinée d'entraînement, mais ils sont une après-midi un petit peu plus calme. Et là, j'essaye d'aller promener, de changer un petit peu les idées. Généralement, je dors pas très très bien et c'est pas grave. Et jour de course, il y a aussi une petite routine par rapport à l'échauffement, etc., qui me met dans les meilleures dispositions pour qu'une fois que je mets le casque pour aller embarquer, ça y est, je suis concentré.
Donc, une petite routine, des choses qui te préparent, des choses que tu fais à chaque fois systématiquement?
Ouais, il y a vraiment une routine, même simplement une routine d'échauffement, hein, qui permet, en fait, de se mettre dans les bonnes dispositions au niveau musculaire. Mais le fait d'avoir une routine qu'on connaît, qu'on sait que ça fonctionne jour de compétition, ça rassure un petit peu sur certaines choses. Donc voilà, généralement je me sens bien, ou même si je me sens pas spécialement bien, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait ce jour-là, en tout cas pour théoriquement pouvoir faire une bonne course.
On a un regard et c'est même devenu rituelique, la façon de prendre son bateau, de le déposer, ou il sait où je suis quand il va réellement partir. Pour s'échauffer avant la course, et on convient d'un endroit où je suis pendant la compétition, et voilà, c'est rituelique.
Et sinon, il y a beaucoup de sportifs aussi qui parlent du fait que si tu regardes la ligne d'arrivée, tu te loupes. Il faut vraiment rester là où on est, au moment où on est, vraiment chaque coup de pagaie, etc. Tu ressens ça aussi très fort, de ne pas penser trop à... Enfin, tu regardes évidemment où tu dois aller, mais je veux dire, vraiment essayer de rester à chaque moment concentré sur chaque mouvement et celui d'après, et pas plus loin ou...
Alors, c'était un petit peu différent, par exemple, en course en ligne sur plan d'eau plat ou en descente de rivière. Donc, en course en ligne, quoi qu'il arrive, c'est un plan d'eau plat de 200 mètres. Et là, on essaie de voir la ligne d'arrivée, voir le plus loin possible pour aller la chercher. On entretient juste, entre guillemets, une technique ou une vitesse max tout en décomposant la course. Donc le départ, la zone d'accélération, puis la vitesse max, et essayer de garder cette vitesse max le plus longtemps possible. Mais en ayant un visuel sur la ligne d'arrivée, puisque de toute façon, elle est pile poil devant.
Ouais.
On n'est pas censé pouvoir la manquer.
À moins de fermer les yeux, mais ce n'est pas le bon plan.
Voilà. En descente de rivière, c'est un petit peu différent. En descente de rivière, si c'est une descente complète, ben là, ça peut faire jusqu'à 5 km, mais si on prend un sprint... Là, ça peut faire jusqu'à environ 1 minute 30. Et sur la minute 30, il va y avoir des passages difficiles d'office. Donc, où on doit être bien concentré, bien attentif. Et donc, de nouveau, moi, j'ai toujours décomposé mes sprints. Donc, je sais exactement à quel moment je vais mettre le coup de pagaie à gauche pour placer le bateau, bien mettre la pointe où elle doit se trouver, réaccélérer. Voilà, le sprint est vraiment décomposé. Sur un sprint de 500 mètres, il y a vraiment beaucoup de passages, on décompose énormément, tout en gardant la période d'accélération, le départ, le placement, toutes ces choses-là. Donc si on pense à la ligne d'arrivée, en fait, on va surcourir, on risque de faire une faute technique et on va faire une bêtise, quoi. Donc généralement, en plus, le fait, moi, de décomposer tous mes sprints, en sachant quoi faire exactement à quel moment, ça me permet de le vivre un petit peu au ralenti. Alors qu'on est à 160 de cadence, mais ça me permet de le vivre un petit peu au ralenti et d'essayer d'exploiter chaque centimètre de la distance totale.
Et tu fais aussi de la visualisation, aller te mettre et puis alors déjà visualiser toute ta course avant de la commencer. Tu fais ça parfois?
Ouais, clairement. Donc on a des runs de préparation, on en fait beaucoup avant la compétition, etc. Donc on crée beaucoup d'automatismes. Peut-être comme en ski de descente, je pense, ça peut être un peu comparable, où on sait telle vague, quelle influence elle va avoir sur le bateau, etc. Et on décompose et on le vit plusieurs fois aussi dans notre tête avant la course.
Ouais, je voyais une fois un grimpeur qui décomposait tous ses mouvements, quoi. Il savait les faire comme ça en regardant la paroi, ça, oui, il a tiré fort, Moi, je me dis, oui, il est en train de visualiser tout son truc à l'avance. Je me dis, je crois qu'il y a beaucoup de sportifs qui font ça. Donc ouais, toi ouais. Aussi, parfois, tu dis, ok, là-bas, le pas trop fort, là, le plus gros coup de pagaie pour reprendre la vitesse après ce truc.
Nouveau, ça permet de valider certaines choses sans pour autant être sur l'eau et de se mettre dans des conditions optimales pour réussir à les faire.
Ouais.
Si on se dit, ah, le passage là, il faut faire attention, il est difficile, je risque de faire une petite faute. Et qu'on se concentre trop sur ce passage-là, ben, on va peut-être bien le passer, mais on va rater celui qui est avant et celui qui est après.
Mmh.
Donc voilà, chaque section de la descente doit absolument être précise.
Précision, c'est un mot qui revient souvent pour ton sport. Tu formes aussi des jeunes en ce moment. Oui, ça vient juste.
Oui, hein oui, oui.
Qu'est-ce qui t'entend dire le plus, le best-of des phrases de Maxime, si je leur demandais?
Oh, bonne question. Je dirais peut-être par rapport à la hauteur des mains sur l'eau. Donc, des conseils techniques.
Mm-hmm.
Et souvent les jeunes, j'essaie de les presser un petit peu plus parce qu'ils prennent un petit peu trop leur temps entre, ils prennent un petit peu trop de récup à la muscu ou ils prennent un petit peu trop de temps pour se préparer des choses comme ça. Donc ça, c'est petit, voilà. Mais si c'est vraiment par rapport du spécifique sur l'eau, ce qui revient probablement le plus, c'est la hauteur des mains.
Il n'y a pas une phrase, un petit.
Il n'y a pas une vraie
qui les
phrase.
Fait rigoler.
Non, j'utilise souvent le mot fondamentalement.
Ah, d'accord.
Aussi, parce que pour moi, ça reprend pas mal de trucs.
D'accord.
Et je sais bien qu'il y en a un ou deux qui m'a déjà vanné un petit peu par rapport à ça, parce que ça m'arrive de le passer quelques fois sur une semaine complète de stage.
Sinon, fondamentalement, il n'y a rien de spécial.
Rien de spécial, non.
Storylific a une double mission, te donner des envies de nature, grandeur nature, et planter des arbres avec les oreilles. Quand tu soutiens Storylific, tu me soutiens dans mon travail de création et tu aides la reforestation, puisque 50% de mes gains sont reversés à des ONG de reforestation, évidemment. Alors si tu crois en ce projet et que tu veux le soutenir activement, je te donne rendez-vous sur Patreon, www.patreon.com/storylific. Merci à tous ceux et celles qui me soutiennent déjà. Savoir que vous accordez de la valeur à mon travail et voulez le soutenir, c'est ma plus grande motivation.
Le truc le plus extrême que tu as fait en kayak hein.
En kayak mm-hmm. C'était une rivière en Australie. C'était une rivière, je ne sais même pas comment la rivière s'appelle. Mais donc j'étais en stage en Australie, en stage course en ligne et descente de rivière. Et il y a une après-midi où les gars sont partis faire une autre rivière, mais donc avec des plus petits bateaux, des bateaux en plastique à ce moment-là. Et ils m'ont demandé de les accompagner. Je dis, ouais, j'ai pas beaucoup d'expérience dans ces bateaux-là. Ils disent, ouais, non, t'inquiète, ça devrait aller. En fait, non. Non, c'était trop difficile pour moi techniquement. J'avais pas suffisamment de connaissances de ce petit kayak-là. Et donc, je me suis retourné, le kayak est parti. Enfin, ça a été super compliqué.
Ah bah, t'as dû leur faire plaisir, là.
Au final, après, je pense, 5 km de descente, j'ai dit, ça va pas aller, il en restait 10. Donc, j'ai fait demi-tour, je suis remonté, même en Australie, vraiment bien perdu. Donc, c'était assez marrant.
Ton plus gros revers, alors? Les trucs dont il faut vraiment se relever pour continuer?
Le plus gros revers, c'était probablement en 2015, où il faut faire dans les 9 premiers, donc il faut faire finaliste au championnat du monde pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2016. Et donc c'est 4 demi-finales où on prend les 2 premiers. J'ai le 6e meilleur temps de toutes les demi-finales, mais je suis 3e de ma demi-finale pour 600e, et donc je rate la qualification olympique. Donc là, ça faisait depuis 2012, en gros, qu'on préparait un petit peu cet objectif-là. Donc c'était un petit peu plus de 3 ans. Et là, le rater pour 600e, même si on sait qu'en 200 mètres, quoi qu'il arrive, c'est pas des secondes d'écart. Mais ça a été un peu dur. Voilà. C'était pas un revers parce que j'ai pas fait non plus une mauvaise performance, mais les 600e là, voilà, ils étaient pas de mon côté, donc c'est un peu plus difficile à encaisser.
Et ben sinon, je crois que l'Olympique c'est pas ce que tu préfères, hein, parce qu'il y a pas la rivière. Hein.
Ouais, en fait, j'ai grandi en tant qu'athlète dans la descente de rivière, et la descente de rivière n'est pas olympique. Donc mon rêve de gosse c'était d'être champion du monde, ça a jamais été d'être champion olympique. Donc quand j'ai été champion du monde, on a commencé à mettre un objectif et on s'est dit il y a aussi les Jeux Olympiques, tu peux passer sur l'autre distance, sur la course en ligne, ça peut être un beau challenge. Et donc on a mis l'implication, on a vraiment mis l'objectif, mais j'ai toujours eu aussi pas mal de détachement par rapport à tout ce qui touche aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est clair, c'est l'événement sportif probablement le plus impressionnant, le plus cool. Et quand on dit aux gens je suis allé aux Jeux Olympiques, ils visualisent d'office plus facilement à quel point t'es un athlète. Voilà, aller aux Jeux Olympiques, c'est sûr, c'est cool, je m'en souviendrai toute ma vie, mais c'était pas non plus un but en soi, je voulais y aller pour y performer. Et donc j'avais aussi beaucoup de recul par rapport à la façon dont le mode de qualification se faisait, les points aussi potentiellement négatifs de l'organisation des Jeux Olympiques, etc. Sans vouloir non plus cracher sur l'événement, hein, que du contraire. Mais voilà, j'ai adoré participer aux Jeux Olympiques, j'aurais adoré y performer. Ça l'a pas fait, mais j'ai pas non plus spécialement de gros regrets par rapport à ça, parce qu'en 2016, j'ai finalement décidé de faire l'impasse sur la dernière qualification des Jeux Olympiques pour faire la descente de rivière, et j'ai été champion du monde cette année-là. Et fondamentalement, entre vouloir participer aux Jeux Olympiques et potentiellement faire une finale ou devenir champion du monde en descente de rivière, moi, mon choix à la base, il était clairement fait.
C'est là qu'on apprend à faire confiance à ses choix.
Ouais, clairement, ou en tout cas à les assumer. Donc, on me pose aussi de temps en temps la question, est-ce que tu as des regrets, etc. Non, j'ai pas de regrets parce qu'en fait, j'ai fait des choix à tel moment, des choix qui auraient peut-être pu être différents ou qui ont peut-être parfois choqué certaines personnes, etc. Même si je crois que c'est pas vraiment le cas. Mais j'ai souvent fait des choix que j'ai totalement assumés, ce qui me permet de ne pas avoir de regrets.
Ouais, et donc la question après, c'était la victoire dont tu es le plus fier. C'est peut-être justement ça, celle qui a été la suite de ce choix
ou... Oui et non. En fait, chaque titre a vraiment été super particulier. Maintenant, comme c'était vraiment mon rêve de gosse de devenir champion du monde, je pense que le premier, il a été plus que spécial. C'est une rivière qu'on connaissait très bien. On y allait en stage depuis des années. On préparait vraiment ce championnat du monde-là. Et le fait de le réaliser, ça m'a vraiment soulagé. Ouais. Je me suis dit, voilà, ouf, j'ai 22 ans, je suis encore jeune, mais ça y est, c'est validé. Quoi qu'il arrive, ça restera. À toi après de voir si tu te mets d'autres challenges et à quoi tu passes. Mais le premier, pour ça, restera peut-être super particulier. Ils le sont tous, mais peut-être encore plus.
Le premier. Son succès qui vous a le plus impressionné?
Non, peut-être que ce qui impressionne le plus, c'est pas d'être champion du monde une fois, c'est de l'être plusieurs fois, c'est dans la continuité de chaque fois avoir su se donner les moyens de son objectif.
Confirmer, ouais.
Je pouvais faire ce que je voulais. Si c'est quand il est sur l'eau, il est tout seul sur l'eau. Mm-hmm. Il est beaucoup apprécié dans toutes les autres nations et tout bazar, justement parce que c'est quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un, je l'ai dit tout à l'heure, qui a beaucoup beaucoup d'humilité, qui respecte et qui est toujours disponible.
Ah oui.
Je me souviens en Espagne avant les championnats du monde en question, il y a un Français qui était un petit peu mis à l'écart de son équipe, qui lui demandait est-ce que tu veux bien que je fasse une descente de rivière avec toi. Il a dit bien sûr. Donc il est passé exactement à la même place que Maxime, autour des mêmes cailloux. Il aurait pu lui cacher quelque chose, il ne l'a pas fait parce qu'il a dit, de toute façon, si demain tu me bats, c'est que tu es plus fort.
Waouh, ça c'est un beau mental de sportif, quoi.
Oui,
ouais, ouais.
Fou, hein.
Ah, ça c'est une belle histoire, tiens. Effectivement, c'est bien fait d'en parler. Et où est-ce qu'on peut te trouver si on veut te suivre?
Alors, je suis sur les réseaux sociaux, majoritairement Instagram, mais aussi sur Facebook. Donc, Maxime Richard sur Instagram, sur Facebook. J'ai aussi un compte TikTok que j'alimente de temps en temps avec des vidéos un petit peu sympas de belles rivières dans la région au niveau international.
Ouais, ouais, ouais. Je recommande ta photo de famille de Noël. Non, il y a des photos, des clips plutôt de ton sport, hein, mais celle-là m'a bien fait rigoler.
Ah, il n'y a pas que du sport, il y a un petit peu autre chose aussi de temps
en
temps.
Bah oui. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps ce matin.
Avec plaisir.
Le week-end du 26-27 mars à Metz, le boss a encore été chercher une double victoire. Il a remporté la Coupe d'Europe et revient aussi champion de Belgique en sprint. Cela valait bien une réception royale puisque père et fils ont été reçus par le roi avec d'autres délégations sportives 3 jours plus tard. Je les ai interviewés juste après.
Et alors ce week-end, félicitations, ouais, ouais. On dit c'est incroyable.
Ouais, merci, ça s'est super bien passé. Voilà, ça pouvait être difficilement mieux passer que ça. J'ai encore su faire une seconde manche encore plus efficace que la première et il fallait puisque tout le monde a été un petit peu plus vite en deuxième manche, donc voilà, je suis super content. Ça faisait partie un peu des objectifs de la saison pour moi puisque je participe au championnat du monde cette année-ci, du coup voilà, quelques jours un petit peu plus au calme avant de reprendre la suite de la saison, des projets, etc.
Et tu te fais déjà écharper ton repos par le roi et la reine eux-mêmes.
On a été invités, ouais. Voilà, ça n'a pas duré très très longtemps. Hein.
Non, mais
on a été invités dans le cadre de leur visite dans la région. Donc il y avait une petite réception au super château de Freyr, qui est un endroit où on pagayait juste à côté, où on passe pas mal de fois durant la saison. Et donc il y avait des tables aussi par thème. Il y avait une table réservée au sport. Et dans ce cadre-là, on a été invités. Et donc on a passé un petit moment en leur compagnie.
Oh, c'est toujours sympa d'avoir de la reconnaissance, non?
Ouais, ça fait plaisir. C'est toujours chouette de parler du sport, de parler du kayak, de toute façon, d'une manière générale. Donc, voilà.
Et les dernières actualités, alors, les deux titres de ce week-end?
Ah, c'était pas vraiment prévu. C'est-à-dire qu'il y a un mois, on n'en avait même pas parlé. Donc, pour l'instant, il se met beaucoup au service des jeunes parce qu'il veut absolument essayer de leur faire passer un petit peu ce qu'il a retenu et sa façon de voir les choses. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus toujours le temps de s'occuper de soi. Donc déjà l'année dernière, quand il est, après 2 ans, redevenu champion d'Europe, alors que 10 minutes avant, il était toujours en train d'aider à embarquer un jeune qui pouvait faire un résultat. Donc on n'a pas tellement la tête prête à sa propre performance. Pour moi, c'est déjà quand même un peu un exploit. Et ici, il me dit, écoute, c'est champion en Belgique et c'est aussi une Coupe d'Europe. Il y a quelques nations... Il y a tous les bons Français, les bons Allemands et tout. Ça peut être sympa. Est-ce que tu crois? Je dis, oui, il faut essayer. Avec l'expérience qu'il a maintenant, je dis, écoute, on essaye, on se fait un programme d'entraînement en fonction et tu verras bien tes sensations 4-5 jours avant la compétition. Et plus les jours passaient, plus il me disait, bah, là, c'était pas mal, ou ceci ou cela. Et puis, ben, ça reste maxime. Voilà. C'est toujours bon à prendre, hein, bien sûr. C'est pour les jeunes, je lui ai dit après, j'ai dit, écoute, les jeunes qui maintenant pagaient avec toi savent que tu es toujours le meilleur mondial. Et donc, si demain, l'entraînement, ils vont aussi vite que toi, ou s'ils te battent, eh ben, c'est qu'ils peuvent le faire aussi. Donc, c'est chouette quand on a à côté de soi un partenaire d'entraînement qui est d'un tel niveau qu'on n'a pas trop à se poser la question de savoir, tiens, comment je vais? Ben non, si je vais plus vite que Maxime, ben voilà, encore maintenant, je sais que j'ai une place sur le podium, quoi, en gros.
Yes!
Et maintenant, la récup, alors, tu fais comment? Rien du tout pendant une semaine ou...
Non, pas vraiment. On vient de manger des frites.
Papa qui rigole là derrière. Voilà.
On vient de manger des frites avec papa, comme il le dit. Donc voilà, je me fais un petit peu plus plaisir au niveau nourriture. Et par contre, les journées sont quand même super chargées parce que j'ai quand même toujours besoin de faire un petit peu de sport. Et j'organise un stage de développement dans mon club la semaine prochaine. Donc, okay. C'est quand même un petit peu d'organisation. Donc, quoi qu'il arrive, avec notre petit mec, on ne sait pas vraiment faire de grasse mat. Et les journées sont quand même bien. Donc.
Bonne récupération quand même. Un tout, tout grand merci de m'avoir permis de te reposer quelques questions parce que quand même, une super actu comme ça, écoute, on ne peut pas passer à côté.
Avec plaisir. Et je te dis à très bientôt.
Encore un énorme merci à Maxime et Marc Richard pour leur gentillesse et ces chouettes moments passés en leur présence. Et toi qui écoutes, si ça ne te donne pas envie de t'essayer au kayak cet été, je ne comprends rien. Je ne peux que t'y encourager, que ce soit en version vitesse max comme Maxime ou en mode convivial avec des copains, c'est un sport vraiment, vraiment sympa. Tu retrouveras toutes les infos sur l'invité dans les notes de l'épisode. Tu trouveras aussi le lien direct vers la page web de l'épisode sur Storylific où tu pourras voir plus de photos, vidéos, citations et autres liens mentionnés pendant l'épisode. Si l'épisode t'a plu, eh bien partage-le sur tes réseaux sociaux, ce sera un super moyen de le faire découvrir par d'autres, ce qui permettra de planter encore plus d'arbres. Avec les oreilles, bien sûr. Et si tu veux rejoindre les planteurs actifs, une seule adresse, patreon.com/storylific. Ce 23 avril, Storylific fêtera ses 1 an. On fera un épisode avec Madagascar pour avoir des nouvelles du terrain, de ceux qui plantent avec l'ONG Graines de Vie et qui nous soutenons tous ensemble, vos oreilles et moi. Et presque 1 an, jour pour jour, après la sortie du premier podcast, je serai en interview à Paris avec Yann Arthus Bertrand. J'ai super hâte d'y être et de te partager cela. Le résultat sur Storylific bientôt et peut-être même en vidéo. Ça, c'est pas gagné, mais j'y travaille. Alors, à bientôt !